On m'informe que les enfants peuvent monter maintenant pour leur classe, pour une activité en famille. Oui, Yvonne qui est justement là, vous suivez notre chère amie Yvonne. D'accord. Bonjour à tous. Joyeuse Pâques. Pâques, vous savez, c'est l'une des plus belles journées de l'année. Vous réalisez ça? Aujourd'hui, c'est l'une des plus belles journées de l'année parce qu'on veut célébrer. On célèbre la résurrection de Jésus-Christ. Après tout, s'il n'y avait pas de résurrection, on n'aurait pas vraiment d'affaires ici. C'est vrai? C'est par la résurrection de Jésus-Christ que Jésus a prouvé que tout ce qu'il avait enseigné, tout ce qu'il avait fait, était vrai. Et plus de 500 personnes l'ont vu. Et on veut se réjouir aujourd'hui, on veut le célébrer. Aujourd'hui, on fête Dieu. On fête Dieu d'avoir envoyé son Fils ici et qui a pris notre place à la croix et qui est ressuscité le troisième jour. Et c'est sa fête. Et on le célèbre et on veut penser à lui aujourd'hui. Quand on pense à la résurrection du Seigneur, on peut penser à différentes choses. On aurait pu ce matin regarder toute la réalité de la résurrection, la signification. De la résurrection. On peut regarder différents aspects, l'importance de la résurrection. Mais ce matin, je voulais mettre l'accent sur un autre aspect de la résurrection. Je veux mettre l'aspect ensemble et nous allons voir un passage des Saintes Écritures dans le Nouveau Testament qui fait ressortir toute cette question de la nouvelle vie, la vie abondante, la vie nouvelle que nous avons grâce à la résurrection de Jésus-Christ. C'est par la vertu de la résurrection de Christ que nous pouvons avoir une vie nouvelle, tout à fait différente, une vie abondante, celui qui met sa confiance dans le Seigneur. Aujourd'hui, en effet, nous allons voir un passage dans une des lettres de Pierre. Et on va regarder l'apôtre Pierre qui est en train de nous dire qu'en raison de la grande bonté de Dieu, c'est grâce à la miséricorde et à la bonté de Dieu que tous ceux qui placent leur foi en Jésus reçoivent une vie nouvelle, une vie différente, une vie abondante. Et c'est par la vertu de la résurrection de Jésus-Christ. C'est parce que Jésus a été relevé d'entre les morts que nous pouvons avoir cette vie nouvelle. Vous savez, ici, ce matin, dans ce lieu, dans ce bâtiment, il y a trois groupes de personnes. Vous vous situez dans un des trois groupes. Certains ici, vous cherchez la joie de vivre. Vous voulez trouver de la joie dans votre vie, le bonheur. Vous voulez vraiment vous épanouir dans les bonnes choses que la vie a à offrir. Il y a les mariages, le mariage, les enfants, la famille, la carrière, l'argent, les finances. Et on peut dire que dans votre cas, peut-être que vous avez réussi à trouver de la joie dans ces choses parce que la vie vous a souri. Vous avez peut-être un bon mariage, vous avez des bons enfants, une belle famille, une belle carrière. Tout est là et vous avez atteint les objectifs que vous vous étiez fixés. La vie vous a souri. C'est une catégorie, un groupe de personnes qui se trouvent ici. En revanche, à l'autre pôle, il y a un autre groupe. La vie ne vous a pas lancé de sourire. Peut-être que vous avez été exposé à des tragédies dans votre vie, à des drames. Vous n'avez pas trouvé cette joie que vous avez recherchée dans les bienfaits et dans les choses que la vie peut nous apporter. Les bonnes choses, et ce sont des bonnes choses. Mais vous avez été frappé soit par le deuil très tôt dans votre vie, dans votre famille. Peut-être que vous êtes tombé malade ou des choses qui ont tourné mal, comme un mariage qui est devenu très amer. Il y a un troisième groupe ici ce matin. Il s'agit des personnes qui éprouvent une grande joie dans toutes les belles choses que la vie peut nous apporter. Vous avez un bon mariage, vous avez des bons enfants, une belle famille, une belle carrière qui est là, juste devant vous. On peut dire que vous avez réussi dans la vie, mais ce groupe de personnes apprécie leur mariage, leurs enfants et tout ça, et vous les considérez comme des bénédictions qui viennent comme un don de Dieu. Certains ici voient ces choses comme vraiment un privilège et un don et une des bénédictions que Dieu peut donner. Vous avez placé peut-être votre espoir dans ce qui est plus important encore. Et c'est très important ce matin qu'on puisse s'arrêter puis on puisse réfléchir à savoir dans quel camp je me trouve. Car voyez-vous, ce que nous allons voir dans le passage de l'apôtre Pierre ce matin s'adresse à chacun des trois groupes. Et parce que nous avons besoin de réaliser une très grande vérité que l'apôtre Pierre va nous présenter. Jésus, après tout, a dit lui-même dans Jean 10:10, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. » Jésus lui-même a dit qu'il était venu pour nous donner une vie abondante. Jésus a fait cette promesse. Il nous a dit qu'il était venu pour ça. Combien de gens aimeraient bien pouvoir dire que leur vie est une vie abondante? Mais ils trouvent leur joie, plusieurs personnes vont trouver leur joie dans des bienfaits de ce monde, dans des belles choses que ce monde peut offrir. Et s'ils trouvent la joie dans ce monde, même s'ils peuvent jouir de toutes les grâces, les belles grâces et tous les bienfaits et toutes les grandeurs de ce monde, on sait bien qu'à quelque part, c'est fragile tout ça. Certaines personnes obtiennent ce qu'elles recherchent. Elles s'approprient des choses, des belles choses, ardemment convoitées d'ailleurs par notre société. Elles réussissent à les avoir, à les acquérir. Des belles choses, comme un bon mariage, des enfants, une belle carrière, de l'argent, sans jamais vraiment arriver à une vie abondante. Parce qu'on sait que toutes ces choses, les belles choses et les bonnes choses qu'on peut avoir et que cette vie peut nous offrir, restent tellement passagers et vulnérables. Demain matin, en un clin d'œil, tout peut s'effondrer. On le sait. Lorsqu'on apprend des nouvelles comme notre sœur, tout d'un coup, un matin, elle se réveille et apprend qu'elle a le cancer. Alors que tu peux avoir tellement de belles choses, un beau mariage, des bons enfants, toute la vie peut te sourire. Demain matin, tout peut s'effondrer. C'est tellement fragile, tout ça. Et on déploie beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie à essayer de tout conserver, ce qu'on bâtit, ce qu'on accumule, mais on s'est aperçu dans la dernière année, avec toute l'économie qui est comme complètement chambardée, on s'aperçoit que tout ça, c'est tellement fragile de mettre son espoir dans les belles choses que cette vie peut nous offrir. On ne dit pas que ce ne sont pas des bonnes choses. On dit simplement que mettre son espoir dans ces choses, en réalité, rend notre espoir tellement vulnérable. C'est tellement fragile tout ça. Et ce que l'on veut voir ce matin, c'est on veut voir une vie vraiment abondante et qui est très différente. Jésus vient nous donner une vie et il vient nous donner une vie abondante et il est le seul à pouvoir nous donner cette vie vraiment abondante. La vie nouvelle que l'on voit dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est le seul à pouvoir faire et il le fait de deux façons. Premièrement, Jésus nous donne la vie abondante par sa mort, qui nous réconcilie avec Dieu, de sorte que Jésus-Christ se tient à la croix à notre place et se soumet au juste jugement de Dieu qui a eu lieu sur la croix pour nos péchés. Deuxièmement, il nous procure également cette vie abondante en changeant nos cœurs, de sorte que nous fondons maintenant notre espoir sur du solide, sur ce qui est fiable. Et les aspirations les plus profondes de notre âme, de notre cœur, reposent maintenant sur ce qui est sûr et ce qui est sûr, c'est du solide. Et c'est par la résurrection de Jésus-Christ, que Jésus peut nous donner cette vie nouvelle, cette vie abondante, et c'est immédiat. Dès lors que vous ouvrez votre cœur pour recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, vous allez vous approprier de ces belles richesses, de cette vie nouvelle. Oui, si tu crois au Seigneur Jésus, si tu places ta foi en lui, il te donne cette vie nouvelle immédiatement et c'est par la vertu de la résurrection qu'il peut faire ça. Malheureusement, il est possible que nous ne soyons pas conscients, il y a bien des gens qui ne sont pas conscients de ce que Dieu nous procure dans la résurrection de Jésus-Christ. Il y a même des enfants de Dieu qui ne réalisent pas tout ce qu'ils ont en Christ par la vertu de la résurrection. À la résurrection, Jésus nous a donné une vie nouvelle, laquelle comprend trois gains. Trois gains. Nous recevons un nouvel espoir, un nouvel héritage et une nouvelle sécurité. Tout ça par la vertu de la résurrection de Jésus-Christ. Le nouvel espoir que Jésus nous donne n'est pas comme l'espoir que le monde peut nous offrir. C'est un nouvel espoir, une espérance qui est vivante. L'héritage qu'il nous donne ne ressemble en rien à l'héritage que l'on pourrait recevoir ici. Le meilleur héritage qui soit sur terre restera toujours fragile et susceptible de disparaître. Mais l'héritage que le Seigneur donne est un nouvel héritage qui ne perdra jamais son éclat. Et la sécurité qu'il nous offre ne ressemble en rien à la sécurité que l'on puisse trouver ici. C'est une sécurité que Dieu lui-même garde et protège. Alors, j'aimerais vous inviter ce matin à 1 Pierre. Et nous allons lire ensemble 1 Pierre, chapitre 1, les versets 3 à 5. 1 Pierre 1, 3 à 5. C'est vers la fin de votre Bible. Dans les dernières lettres, une petite lettre, vous pourriez passer tout droit assez facilement. Ce n'est pas très épais comme livre. Courte lettre. 1 Pierre, chapitre 1. Versets 3 à 5. D'accord? 1 Pierre 1, 3 à 5. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Laissez-moi vous le lire dans une autre traduction, une autre version qu'on appelle la Bible en français courant. J'aimerais vous le lire. Écoutez bien ces paroles, même passage. Louons Dieu! Pierre commence comme ça. Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande bonté. Il nous a fait naître à une vie nouvelle en relevant Jésus-Christ d'entre les morts. Nous avons ainsi une espérance vivante en attendant les biens que Dieu réserve aux siens. Ce sont des biens qui ne peuvent ni disparaître, ni être salis, ni perdre leur éclat. Dieu vous les réserve dans les cieux, à vous que sa puissance garde par la foi en vue du salut prêt à se manifester à la fin des temps. Par la résurrection de Jésus-Christ, le don exceptionnel de Dieu est la vie éternelle. Ce que nous avons vu dans la première lecture qu'on a faite, la régénération, une nouvelle vie, une nouvelle naissance. J'étais triste à quelque part d'apprendre que certaines églises ne parlent jamais de nouvelle naissance. D'ailleurs, dans ma classe ce matin, à la première heure, un frère nous parlait qu'il arrive d'une église où on ne parle jamais de nouvelle naissance. Il a découvert toute la question de nouvelle naissance en quittant leur église et jamais dans leur église. C'est fascinant de voir des choses qu'ici on prend pour acquis dans cette église. On parle souvent de la nouvelle naissance, cette nouvelle vie. Alors que dans certains lieux, tu n'entends jamais parler de toute cette question, de cette vie abondante, cette vie nouvelle que l'on trouve en Jésus-Christ. Oui, par la résurrection de Jésus-Christ, le don exceptionnel de Dieu est la vie nouvelle, une vie différente. Pierre nous dit ici que cette vie nouvelle, cette vie abondante, relève en fait de la résurrection. C'est la résurrection de Jésus-Christ qui est à la base de la vie nouvelle. si vous avez placé votre confiance en Jésus-Christ, si vous avez embrassé l'Évangile, vous avez reçu son message, vous avez placé votre foi dans le Jésus de la Bible, tel qu'il se révèle, le Fils de Dieu, celui qui est allé à la croix pour votre place, à votre place à la croix, pour payer pour vos péchés. Si vous avez mis votre confiance en ce Jésus, tel qu'il s'est révélé, non à cause de vos œuvres, non à cause de ce que vous méritez, mais en raison de sa personne, la personne de Christ, en raison de son œuvre, de sa parfaite obéissance et de son sacrifice parfait, accepté de Dieu. Eh bien, si vous avez placé votre confiance en Jésus-Christ, eh bien, l'apôtre Pierre vous dit que la résurrection de Jésus, par la résurrection de Jésus, vous avez une nouvelle vie. Vous avez un nouvel espoir, vous avez un nouvel héritage qui vous est réservé. Vous avez une nouvelle sécurité. Et ça, c'est en Dieu, c'est en Jésus-Christ. Pierre écrivait à des chrétiens qui se trouvaient à l'Asie mineure, qui faisaient face à de grandes difficultés. Un moment ils allaient connaître des temps d'épreuves, de persécution. Les citoyens considéraient les chrétiens. Cette communauté à laquelle Pierre va écrire, les citoyens de la ville considéraient les chrétiens comme des citoyens de troisième classe, même de dernière classe. Aucun droit, aucune loi protégeait ces chrétiens dans l'Asie mineure. Ils étaient considérés comme des étrangers, un vocabulaire, un terme que même Pierre va se servir dans sa lettre, parce que les gens comprenaient très bien ce dont il s'agissait. Si tu étais un enfant de Dieu, on ne te considérait plus comme un citoyen de première classe. On te rejetait. On pouvait te mépriser. Imaginez te retrouver dans un foyer où ta femme se convertit à Jésus-Christ. Sa femme place sa foi en Jésus-Christ. Et le mari ne veut rien savoir. À cette époque, c'était très difficile. On te divorçait, on te rejetait. Tu te retrouvais dans la rue avec absolument rien, aucun droit, aucune protection. Et Pierre va écrire, il écrit à cette communauté de croyants qui passe déjà par des temps difficiles, et ces mêmes croyants vont passer par des temps encore plus difficiles. Juste quelques mois après avoir reçu leur lettre, la lettre de Pierre, ces mêmes chrétiens vont connaître une persécution très sévère, très grave, où il y aura même des morts, des gens jetés en prison. Qu'est-ce que tu dis? Quelles paroles d'encouragement est-ce que tu donnes à des gens qui sont dans des épreuves si difficiles, des drames familiaux? Qu'est-ce que tu dis à ces gens-là qui se retrouvent dans un moment si difficile de leur vie? Quoi dire? T'es une chrétienne et tu vas parler à une chrétienne, à une autre chrétienne qui t'apprend qu'elle vit un drame. Elle te raconte son drame. Qu'est-ce que tu dis pour encourager quelqu'un qui sombre dans un temps tellement dur, une épreuve ou qui vit un drame? Tu es pasteur et tu dois parler à une assemblée de gens qui vivent ces moments si difficiles et des gens qui seront même placés en prison à cause de leur foi. Quelle parole d'encouragement est-ce que tu donnes à ces gens-là, à des gens qui souffrent? Eh bien, les paroles de Pierre sont presque, à première vue en tout cas, elles sont choquantes. Vous savez ce que Pierre dit à ce groupe de chrétiens qui souffrent? Première chose qu'il dit, « Louons Dieu! » Imaginez, ça manque de délicatesse, vous ne trouvez pas? « Louez Dieu! » Honnêtement, à première vue, il y a quelque chose qui ne marche pas ici. C'est presque choquant. C'est comme ça que Pierre commence au verset 3. Louons Dieu! Donnons gloire à Dieu! Voici ce qu'il faut dire à quelqu'un qui souffre. Selon ce passage, voici le modèle que nous avons. Loue Dieu. Béni soit Dieu. Mais pourquoi Pierre dit à ces pauvres chrétiens menacés, éprouvés, qui vont souffrir encore plus dans quelques mois, qui vont connaître la persécution? Comment Pierre peut-il dire à ses chers frères et sœurs de louer Dieu alors qu'ils font face à ces moments si difficiles dans leur vie? Ce que Pierre est en train de dire, en fait, et ce que nous avons besoin d'apprendre, frères et sœurs, ce matin, c'est que Pierre loue Dieu parce que même si tu perds tout, nous avons de plus grandes bénédictions et de plus grandes richesses en Jésus-Christ. Pierre ne se réjouit pas du mal. Mais voyez-vous, et c'est ça la leçon qu'on a besoin de soutirer de ce passage, et pour chacun d'entre nous, frères et sœurs, nous avons besoin de réaliser que même si on peut arriver à profiter des meilleures choses que la vie peut nous offrir, il est important pour chacun d'entre nous de ne pas placer notre espoir dans ces belles choses, mais de placer notre espoir dans quelque chose qui est du solide. Parce que voyez-vous, ces chrétiens allaient perdre tout, tout perdre. Et si ton espoir repose que sur des choses, des belles choses que la vie peut t'offrir, tout ça, c'est fragile. Demain matin, tout peut changer. Mais Pierre est en louange, en adoration, il veut remercier le Seigneur de ce que, justement, nous, les enfants de Dieu, notre espoir ne repose pas sur des choses qui sont fragiles, mais elle repose, elle est placée sur Jésus-Christ qui est du solide. Les bienfaits, les bénédictions que Dieu nous donne ne perdront jamais de leur éclat. Il n'y a pas de hausse et de baisse, c'est stable et c'est du solide. Les bénédictions et les bienfaits que Dieu nous donne sont permanentes et ça ne changera jamais. Voilà notre louange. Voilà pourquoi nous pouvons dire « Loué soit Dieu » parce que pour nous, même si tout tombe à côté, notre espoir n'est pas placé dans ces choses. Elle est placée sur Christ. Et cette parole fut un grand encouragement pour ces chers chrétiens, et c'est également un grand encouragement pour chacun d'entre nous. Pierre dit au verset 3 que cette vie nouvelle est due à la grande bonté de Dieu. Il nous fait naître de nouveau à une nouvelle espérance à travers la résurrection de Jésus-Christ. Vous comprenez qu'en nous disant que ce changement, cette vie nouvelle, vient de Dieu, c'est par la grande bonté de Dieu, c'est un don de Dieu. Il est en train de mettre de côté et en train de nous dire qu'il ne s'agit pas d'un programme ici de développement personnel et de motivation personnelle. Vous réalisez bien ici qu'en disant ça, que ça vient de Dieu, cette vie abondante qui vient de Dieu, il est en train de nous dire que tous les programmes de développement personnel, je ne parle pas de ça ici. Vous entrez dans une librairie, et c'est incroyable maintenant, cette section qui s'appelle « Psychologie et développement personnel ». Le développement de soi, c'est rendu, c'est incroyable, on sort un livre là-dessus, c'est un succès instantané. On appelle ça en anglais « self-help book ». C'est toute cette ruée vers tous les livres qui dit que vous êtes capable, vous êtes fort, vous pouvez penser, ayez la pensée positive. Il y a même un homme qui a écrit un livre, vous savez, ce livre qui a été vendu à coups de millions, « Le secret ». Qu'il existe des vibrations dans le monde ici. Vous pouvez juste vous canaliser ces énergies et ces vibrations. Ah, la vie va vous sourire, vous allez attirer. Et c'est le secret de l'attraction que vous attirez les de ce monde vers vous. C'est incroyable. Depuis que ce gars-là a écrit son livre « Le secret », je m'en vais chez Costco, je regarde toujours la section du livre, il y a plein de livres, ça commence avec les romans, et là, ça continue vers la fin, les vacances, les voyages et tout ça. Et là, dans le milieu, il y a ce coin-là, « Le secret », « Le pouvoir de l'attraction », « La pensée positive », « Vous êtes millionnaire », Vous êtes capable. Et c'est incroyable. Hein? Et c'est drôle, tu regardes les gens se promener. Hein? Puis, à un moment donné, les gens vont comme être attraction. Hein? C'est comme, ils sont attirés vers la loi de l'attraction. Hein? On veut savoir comment avoir la vie abondante. Bien, vous comprenez que Pierre, ici, est en train de dire, non, je ne suis pas en train de vous proposer un programme de développement personnel, là. Je ne suis Je ne suis pas en train de vous parler que vous pouvez changer votre façon de penser, voir le monde différent et voir être plus positif et vous allez voir, la vie va sourire. Vous comprenez très bien, c'est très clair qu'on ne parle pas de ça ici. Pierre est en train de dire que c'est un don de Dieu. D'accord? Vous lirez les livres que vous voulez sur le pouvoir d'attraction. Vous n'aurez jamais ce don, cette vie abondante que seul Dieu peut donner par la vertu de la résurrection, la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Je regrette. Lisez une tonne de livres. Lisez tous les livres que vous voulez. Vous n'aurez jamais la vie abondante que Dieu nous offre. Est-ce que c'est assez clair? Pierre le dit, c'est un don de Dieu. Et je suis triste lorsque quelqu'un réfléchit et pense à Jésus-Christ et dit « Non, sais-tu, je ne veux pas Jésus-Christ dans ma vie comme sauveur personnel parce que je sais très bien toute l'abondance, la vie abondante que seul Dieu peut apporter à cet individu. » En refusant Christ, en refusant Jésus-Christ, ils sont en train de fonder tout leur espoir sur du fragile, sur ce qui peut tomber demain matin. Alors Pierre dit, cette vie abondante que tu recherches dans le fin fond de ton âme, ce que tu aspires dans le fond de ton âme, se trouve en Christ, en Jésus. C'est lui qui peut t'apporter cette vie abondante. Et c'est du solide. Le christianisme n'est pas un programme de développement de soi. C'est de recevoir de la part de Dieu une nouvelle vie, une vie nouvelle, transformée, une vie abondante, complètement changée, complètement différente. Dieu, dans sa grâce et par sa bonté, c'est juste dans sa bonté, nous donne cette vie nouvelle en Jésus-Christ. Voilà ce que Pierre est en train de dire. Et c'est tellement important que l'on comprenne ça, bien-aimés. Voilà ce que reçoivent tous ceux et celles qui placent leur foi en Jésus-Christ. Une vie nouvelle, laquelle nous procure un nouvel espoir, un nouvel héritage et une nouvelle sécurité. La nouvelle vie de Jésus-Christ comprend trois bénédictions. La première, un nouvel espoir. 1 Pierre 1,3 le dit bien. « Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande bonté, il nous a fait naître à une vie nouvelle en relevant Jésus-Christ entre les morts. » Nous avons ainsi une espérance qui est vivante. Chers amis, quand on parle d'espoir, honnêtement, entre nous, on sait bien que quand tu espères, quand tu parles « j'espère que », mais ça ne parle pas de ça ici. L'espoir que Dieu te donne, c'est du solide. C'est pas « j'espère que les Canadiens vont gagner ». C'est pas « j'espère que je vais avoir une hausse salariale ». Ce n'est pas « j'espère qu'en 2009, nous allons tous être en santé ». On ne parle pas de ce genre d'espérance ici. Dieu parle d'un espoir qui, et son espoir ne se compare en rien à l'espoir que ce monde peut offrir. Son espoir est une espérance vivante qui est vraie, c'est du roc, c'est solide, tu peux compter dessus, ça va arriver. L'espoir que nous avons en Jésus-Christ va se réaliser. Et c'est quoi cet espoir? C'est l'espoir que Jésus va revenir, va essuyer les larmes de nos joues, de notre visage, où il va nous emmener dans son royaume. Il revient pour régner, établir son royaume à la vue de tout le monde. Il vient pour nous emmener dans son règne, où il n'y aura plus de souffrance, plus d'épreuves, et que nous connaîtrons l'abondance dans tous les sens du mot. Tu seras en santé comme tu n'as jamais été en santé. Tu vas être riche comme tu n'as jamais été riche. Donald Trump, c'est rien à comparer de la richesse que tu vas avoir en entrant dans le règne avec Jésus-Christ. Comprends-tu ça? Tu vas avoir tout en abondance. Imagine n'importe quoi, là. Multiplie-le dans le ciel. pas de limite. Tu vas. Tu sais, des fois, on vient me voir, on dit, t'es-tu en forme? Oui. Pas vous dire que je suis pas mal en forme. Oui, en forme. Mais honnêtement, là, si je pars à courir demain matin, rendu à 5 km, j'ai de la misère. Il y en a, c'était incroyable. Tarek, je pense, 12 km tous les soirs. Il y en a. Mais quand même Tarek, je pense que tu as fait quoi, le max? 40? As-tu fait ton 40? Tu l'as fait à 40, hein? Tu as fait 40. Ah, je suis jaloux. 40 km de jogging. Hey, faut le faire. Mais même Tarek, l'athlète, en forme, même lui, à quelque part. C'est-tu Tarek? Au ciel! Ça sera rien! Je vais courir à côté de toi! Amen! Ouais, il m'a dit, hey, Tarek, viens-t'en! Il va peut-être même te dépasser! On va connaître l'abondance dans tous les années. La joie, Jésus, comment tu communiques ça? Une joie parfaite. C'est comme ça que Jésus communique. Il dit, vous allez connaître une joie complète, parfaite. Tout, ça va être merveilleux, l'espérance, et ça va se réaliser. C'est du rock. Vous avez vu dans la dernière année, hein, si vous avez eu des actions, moi, mon 2,95 $ investi dans les REER a comme, tu veux même pas suivre. Je place l'argent, un petit peu d'argent que j'avais là, pour sauver un peu d'impôts, puis tout, le lendemain, je paye 500 $. 24 heures. Hey, mais j'ai dit, ça n'a pas de bon sens, il faut que j'arrête de regarder ça. Ça n'a pas de bon sens. La madame à la banque a dit, oui, il ne faudrait pas regarder ça tous les jours, ça va vous décourager. Imagine-toi, c'est les experts qui travaillent là-dedans à temps plein pour faire fructifier notre argent. Puis je vois juste des moins. Non, mais ça n'a pas de bon sens. Si les experts, les tops de ce monde, ne sont pas capables de faire fructifier les affaires tout le temps, tu t'aperçois que c'est fragile. Les meilleurs cerveaux économiques au monde, tu vois bien que c'est comme fragile. Pas avec Jésus-Christ. Ah non, Jésus-Christ, c'est du solide. Vois-tu, on a reçu un nouvel espoir en Jésus-Christ, c'est du solide. Et on a reçu un nouvel héritage qui ne perdra jamais de son éclat. J'aime la façon que le français courant le dit. Ne perdra jamais de son éclat. C'est un bel héritage et ça va toujours rester beau. C'est magnifique, n'est-ce pas? Versets 3 et 4. En attendant les biens que Dieu réserve aux siens, ce sont des biens qui ne peuvent ni disparaître, ni être salis, ni perdre leur éclat. Que Dieu vous réserve, il vous les réserve dans les cieux. Réalisez-vous que non seulement on a reçu un nouvel espoir, mais on a également un nouvel héritage, un héritage qui ne baissera jamais. Il n'y aura jamais de cours baissier. Imagine-toi donc, c'est comme top, toujours top. Toujours top, la ligne est en haut. Oui, ouais, va monter. Peut-être qu'on va les apprécier plus en tout cas. Aïe, aïe, aïe. Si nous éprouvons plus de joie à l'héritage que nous avons à Jésus-Christ, ça change notre façon de voir le monde. On apprécie les bonnes choses que le monde peut nous offrir. Hein? Encore plus, parce que tu sais que c'est une gâterie. C'est une bénédiction que Dieu te donne maintenant, mais que tu vas en avoir d'autres encore plus grandes, plus profondes, plus larges, plus étendues quand tu entreras au ciel. Ça change. On apprécie même ce qu'on a aujourd'hui, encore plus. Mais aussi, on va pouvoir accepter plus facilement les pertes que cette vie peut nous faire subir, parce qu'on sait que ce n'est pas la fin. Et dans ce sens, l'apôtre Pierre peut dire, « Louons Dieu. » Oui, c'est difficile. C'est difficile. Et les prochains mois seront encore plus difficiles. Mais louons Dieu. Notre espoir ne repose pas sur des choses autour de nous. Ça, c'est momentané. Mais notre espoir repose sur Dieu. Ça, c'est du solide. On a un héritage. Vous allez peut-être perdre vos biens. Pierre, dans le fond, c'est ça qu'il est en train de leur dire. Vous allez peut-être perdre vos biens. Et plusieurs ont perdu leurs biens. Mais il y a des biens qu'on ne perdra jamais. Encore meilleurs, plus grands, plus belles. Alors, notre espoir est maintenant centré sur Christ. C'est une espérance vivante. Mais troisièmement, on a un héritage. Et troisièmement, cette vie nouvelle comprend une nouvelle sécurité. Alors, on a une nouvelle sécurité. Nous savons que notre avenir est gardé. nous sommes en sécurité, nous sommes gardés par Dieu lui-même. Imaginez, notre éternité est gardée par Dieu lui-même. Verset 4 et verset 5, « Dieu vous réserve, vous les réserve ces biens-là dans les cieux. » À vous que sa puissance garde par la foi en vue du salut, prêt à se manifester à la fin des temps. Voyez-vous, nous sommes gardés, notre sécurité éternelle est gardée en Dieu. C'est Dieu qui fait ça, ça ne repose pas sur nous. Pierre, ce qu'il est en train de dire très simplement, c'est que rien ne peut vous enlever de Dieu. Rien. T'arrivera ce qui t'arrivera. Rien peut t'enlever de Dieu. Une fois que tu mets ta confiance en Jésus-Christ, que tu nais de nouveau, tu reçois cette vie nouvelle-là, rien ne va t'enlever de Dieu. On est unis à Jésus-Christ à jamais. Rien ne peut toucher ça. Rien ne va t'affecter le salut que tu as en Jésus-Christ. Voyez-vous comment cette vérité-là peut changer notre façon de voir les choses, notre façon même de voir les épreuves. Et Pierre peut commencer sans manquer de délicatesse, et leur dire « Louons Dieu, frères et sœurs. » Il peut le dire même avec assurance. Parce que notre espoir, notre héritage, notre sécurité, et parce que ces citoyens-là ne se sentaient pas en sécurité, évidemment, hein, comme citoyens chrétiens, tu étais de troisième classe. Mais on a une sécurité éternelle que Dieu garde et personne ne peut chambranler ça. Ça change ta façon de vivre. Ça change comment tu vas voir le monde. Il y a à peine quelques semaines, vous n'êtes peut-être pas au courant, on a entendu plusieurs drames récemment. Il y a peut-être un drame qu'on n'a pas entendu parler, qui est peut-être moins popularisé ici. Je ne sais pas si ça a passé aux nouvelles ici. Mais il y a quelques semaines, on parle de même pas un mois, un dimanche matin dans une église baptiste à Maryland, il y a un homme qui est rentré en plein culte, en plein service. Vous en avez entendu parler? Ils en ont parlé quand même. Ils ont tué le pasteur en plein service, en plein culte. Tire le pasteur. Tue le pasteur est mort. Une semaine après, ils ont fait une entrevue avec son épouse, qui est maintenant veuve. Et sa fille aussi a parlé. Sa fille qui vient de perdre son père. Je vais vous lire l'entrevue qu'elle a accordée, et pas n'importe quelle chaîne, CBS ou Early Show. Grosse émission aux États-Unis. Voici ce que cette nouvelle veuve a dit au cours de l'entrevue au sujet du meurtrier. D'accord? Je n'ai aucune haine pour lui, ni aucune rancune. Imaginez. Meurtrier vient de tuer son mari. Je n'ai aucune haine pour lui, ni aucune rancune. Nous avons prié pour lui. L'une des premières choses que ma fille m'a dites après que ce soit arrivé, écoutez bien, ça c'est sa fille, qui vient de perdre son père. L'une des premières choses qu'elle a dites. Maman, j'espère qu'il viendra au Seigneur Jésus et qu'il apprendra à l'aimer à travers ça. Imaginez, la fille vient de perdre son père. J'espère qu'il viendra au Seigneur Jésus, qu'il va apprendre à aimer Jésus à travers tout ça. Nous ne sommes pas en colère, continue la mère. Nous ne sommes pas en colère du tout, et l'on croit fermement que le tueur peut trouver de l'espoir, le pardon et la paix en venant au Seigneur Jésus, et on espère que ça lui arrivera. Imaginez. Quand on place notre confiance sur le Seigneur Jésus, notre façon de voir même le monde va être changée. Ce qui est triste, toutefois, c'est que certains chrétiens ne réalisent pas toutes ces belles richesses que Dieu leur a accordées, leur a données, tous ces dons. Ils ne réalisent pas qu'ils ont reçu un nouvel espoir, un nouvel héritage, une nouvelle sécurité. Et c'est sur cet héritage par la vertu de la résurrection de Christ, que c'est garanti. Et ils vivent comme tout leur espoir repose que sur des bienfaits que la vie peut apporter ici. Alors que c'est tellement différent, c'est tellement plus solide lorsque tu places ta foi, lorsque tu jouis du fait que tu as un nouvel espoir, tu as un nouvel héritage, tu as une nouvelle sécurité en Dieu. C'est pour ça qu'il y a bien des chrétiens qui manquent d'assurance. Ils ont peur, ils vivent dans la peur, ils vivent dans la crainte. Et on en a ici. Vous vivez dans la crainte continuellement. La peur de perdre les acquis, peur de perdre des choses. Des belles choses. Mais on réalise que ce que nous avons reçu dans le Seigneur Jésus est plus solide, a plus grande valeur. Et il y a d'autres personnes ici ce matin, votre joie se limite à ce que vous pouvez trouver ici. La satisfaction que vous recherchez ne se trouve pas en Dieu, ne se trouve pas en Jésus-Christ. Votre espoir n'est pas Christ, n'est pas Jésus-Christ. Vous n'êtes pas rendu là encore. Votre espoir n'est pas en Jésus-Christ qui a été ressuscité d'entre les morts et qui revient bientôt. Vous fondez votre espoir ailleurs. Eh bien, c'est une erreur, bien-aimé. Votre espoir repose peut-être sur de l'argent, peut-être sur votre carrière, peut-être la famille. Belle chose. Peut-être que ce qui suscite en vous le plus d'espoir dans la vie, c'est de vous trouver une femme, une épouse, une conjointe, ou avoir des enfants, une famille. Laissez-moi vous dire ce que Paul dit à votre sujet. En fait, Paul dit dans 1 Thessaloniciens 4 que vous n'avez pas vraiment d'espoir. Parce que dans le fond, l'espoir qui repose sur des bienfaits, même si elles sont bonnes, c'est tellement fragile. Et dans le fond, Paul dit clairement que vous êtes sans espoir. Parce que la vraie espoir se trouve en Dieu. Et c'est par amour pour vous que Paul dit ça, vous dit ça. Paul sait que Dieu nous a créés pour lui-même et on ne sera jamais en mesure de trouver l'espoir, de trouver la joie profonde et avoir cette vie abondante que ton âme veut trouver. Tu ne trouveras jamais ça à moins de les trouver en Dieu par Jésus-Christ. Mais si on place notre confiance en Jésus-Christ, aucun désastre, aucun bienfait ne pourra se mesurer aux joies et à la vie abondante, à l'espoir et à l'héritage inépuisable et à la sécurité qu'on a en Jésus-Christ. Prions, Seigneur. Eh bien, Seigneur notre Dieu, ce matin, nous réalisons, encore une fois, comment même les belles choses que cette vie peut nous offrir. Et tu as fait de belles choses, Seigneur. On n'a qu'à sortir à l'extérieur et voir ce chef-d'œuvre de la création. On voit les bénédictions que tu accordes, ces grâces communes, ces bénédictions communes que tu donnes à tous, comme la famille, le mariage, les enfants, l'argent, la santé, toutes ces belles choses que l'on aspire, Seigneur, et qui nous procurent une certaine joie. Tu sais, Seigneur, que la joie abondante, parfaite, complète, ne se trouve qu'en Christ. C'est sur lui que doit reposer notre espoir, parce que l'espoir qu'il nous offre, avec cette vie nouvelle qu'il nous donne, cet espoir, c'est du solide, c'est du fiable, ça ne change pas. L'héritage est inépuisable, cet héritage que tu donnes à tous les enfants de Dieu. Inépuisable, ne perd jamais de son éclat. Et on pense à la sécurité que nous avons, qu'une fois un enfant de Dieu, nous restons toujours un enfant de Dieu. Un enfant que l'on adopte est toujours notre enfant, Seigneur. Quelle que soit l'attitude de cet enfant-là, Seigneur. Et tu nous as adoptés, tu nous as sauvés, tu as fait de nous un membre de ta famille. Et Seigneur, tu ne nous rejetteras jamais. Merci Seigneur de ces bienfaits. Merci de toutes ces bénédictions que nous avons, cette vie abondante dans laquelle on reçoit cet espoir, un nouvel héritage, un nouveau salut éternel, solide, que tu gardes tes enfants. On veut te louer, Seigneur. Donne-nous de vivre notre vie cette semaine, réalisant que ce sont les plus grandes valeurs, les plus grandes richesses. De ne pas fonder nos espoirs sur ce que nous avons ou obtenons. C'est tellement vulnérable et fragile. Mais aide-nous, Seigneur, à vivre notre vie sur ces valeurs qui sont éternelles et sont solides que nous avons en Jésus-Christ par la vertu de la résurrection. Et s'il y a quelqu'un, Seigneur, ce matin qui n'a pas encore dit oui à Jésus-Christ, qui n'a pas cédé sa vie à Christ, qui n'a pas placé sa foi en Jésus, on te prie qu'il ne quitte pas ce lieu ce matin avant de dire, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je te reçois comme mon sauveur personnel. Donne-moi cette vie abondante que ta parole promet si je place ma foi en Jésus. Oui, Seigneur, sauve ce matin. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui se trouve dans l'Assemblée qui a besoin de recevoir cette vie nouvelle, cette vie abondante. Eh bien, Seigneur, touche son cœur ce matin et qu'il ne quitte pas ce lieu avant de dire, « Oui, Seigneur, je m'abandonne à toi. » Pour ta gloire, Seigneur, et ce matin, nous voulons dire, « Louons Dieu pour toutes ces belles bénédictions que tu nous donnes par la vertu de la résurrection. » Qu'il y a 2000 ans, Jésus est sorti du tombeau. Il est vivant aujourd'hui. Et tu reviens bientôt. Entrez dans ton règne et nous serons avec toi pour l'éternité. Ô Seigneur, nous te louons.